Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour et bienvenue dans La France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien, on va beaucoup parler de produire en France. Avec tout d'abord donc des chips produites en plein cœur de la Beauce, les chips Belcia. Mais derrière ces sachets, il y a aussi l'histoire d'un changement de vie et la transformation d'une exploitation agricole familiale dans le département de l'Eure-et-Loire. Une histoire que nous racontera Clémence Maison, c'est la gérante des chips Belcia. Nous parlerons également des uniformes scolaires. Cette année, plusieurs établissements, vous le savez sans doute, doivent l'expérimenter. Alors, est-ce une opportunité pour la filière textile française? En tout cas, le slip français et les jeans 1083 ont décidé de répondre à cette initiative en produisant un trousseau made in France, bien sûr, à moins de 200 €. Où en est le projet? Nous poserons la question à Léa Marie, c'est la directrice générale du slip français. Et puis enfin, nous reviendrons sur Global Industrie dont l'édition 2024 débute à partir de lundi prochain à Villepinte, près de Paris. C'est le grand rendez-vous annuel de l'industrie. À cette occasion, BFM Business sera bien sûr très présente pour une journée spéciale, notamment lundi. On en parlera avec Sébastien Gillet de JL Event, c'est le directeur de Global Industrie. Et tout d'abord, donc, après deux émissions consacrées à l'agriculture, puis à l'agroalimentaire, eh bien, on va commencer ce numéro de La France à tout pour réussir par une belle histoire de retour à la terre. Bonjour Clémence Maison.
Bonjour.
Vous allez donc nous parler des chips Belcia. Je le disais un peu dans les titres, c'est avant tout aussi une histoire familiale. Alors, c'est l'histoire de votre couple avec votre mari Mathieu, parce que ses parents avaient une exploitation agricole à l'Étourville. Hein, c'est bien
exactement.
Ça, c'est en Eure-et-Loire. Racontez-nous un peu cette histoire qui est la vôtre et celle de vos beaux-parents.
Alors, mes beaux-parents sont agriculteurs, Mathieu aussi maintenant, et en fait, le but, quand on a créé les chips Belcia, c'était de diversifier l'activité de la ferme, donc d'utiliser une culture de la ferme et de la valoriser. Donc, on est parti sur la pomme de terre parce que il y a 8 ans, on ne trouvait pas du tout de chips artisanales en France. On connaissait beaucoup les chips anglaises. Mais en tout cas, en France, ça se faisait
pas. Les chips Lay's
Non, Thai Rolls.
Ah voilà, les fameuses avec plein de couleurs, là, c'est ça?
Oui, voilà.
Voilà.
Et du coup, voilà, l'idée, c'était de valoriser une culture de la ferme. Et donc, on a créé les chips Belcia il y a 8 ans. On a réhabilité la ferme en chipserie. Donc, tout est fait sur place. Les pommes de terre sont cultivées sur la ferme et à 100 mètres des champs, on a notre usine.
Mais est-ce que ça vous prédestinait? Vous, je crois que Mathieu et vous étiez ingénieur dans l'agroalimentaire pour votre mari Mathieu, chez le géant Mondelez, hein, c'est bien ça. Vous, dans ce qu'on appelle un peu le textile intelligent, c'était
ça,
voilà. Comment ça se fait que vous vous aidez? Alors, je ne sais pas si vous étiez en région parisienne ou pas, mais pourquoi ce retour à la terre?
Alors, Mathieu était à Paris, moi j'étais sur Tours et... En fait, on avait vraiment envie d'entreprendre et c'est vrai que on va pas en reparler en ce moment, mais l'agriculture c'est quand même compliqué et du coup de pouvoir valoriser un produit issu de la ferme, enfin c'est super parce que du coup c'est local, les gens savent d'où ça vient et puis nous voilà, on avait envie d'entreprendre, l'idée a germé et puis on s'est lancé.
On est dans quelle superficie pour cette ferme?
Alors la ferme au total, donc c'est divisé en deux endroits, on a 320 hectares au total et du coup pour la partie donc pommes de terre, on cultive 20 hectares de pommes de terre et toutes les pommes de terre partent en chips.
De la Lady Claire, je crois.
Exactement,
hein, c'est
Lady Claire,
voilà.
Une variété qu'on appelle chipsable, qu'on peut consommer quasiment qu'en chips.
Et c'était déjà que de la pomme de terre qui était produite sur place ou est-ce que vous avez fait évoluer la production et donc maintenant c'est un mono-usage en fait?
Alors avant c'est toujours une ferme céréalière, donc blé, maïs, orge, colza. Il y avait aussi une partie pomme de terre, mais c'était de la pomme de terre de grande consommation qu'on peut retrouver en supermarché. Et du coup quand on s'est lancé il y a 8 ans, on a juste transformé cette partie pomme de terre grande conso en Lady Claire, donc pour la chips. Et du coup voilà, on fait qu'une variété et tout est transformé en chips.
Parce que c'est plus valorisable, ça rapporte plus de vendre évidemment un produit transformé que de vendre de la pomme de terre brute.
Oui, ça rapporte plus et puis surtout nous ça nous permet de limiter nos coûts. Enfin, en fait on connaît le prix de la pomme de terre, on arrive à le lisser nous depuis 8 ans Et du coup, vu que la pomme de terre, c'est quand même 70% de nos paquets, ça nous permet de limiter les coûts et d'anticiper les hausses.
Parce qu'évidemment, donc, les coûts, donc, il a fallu créer un site de production. Ça veut dire aussi des coûts, évidemment, salariaux, mais des coûts sur l'électricité, sur l'énergie au sens large. Il y a les aléas climatiques. Donc, ça, oui. ça vous permet de tout lisser pour avoir quand même un minimum de rentabilité. Est-ce que d'ailleurs, c'est rentable de produire des chips?
Oui, c'est rentable de produire des chips. À l'heure actuelle, on est rentable. Maintenant, on a une quinzaine de salariés. Donc oui, c'est rentable. C'est plus rentable qu'une ferme à l'heure actuelle. Hein. Après, oui, au début, ça a été beaucoup d'investissements. Là, on commence à être clairement à l'étroit. Donc on est sur des sujets de développement aussi. On a un gros coût énergétique, mi-électricité, mi-fuel pour faire marcher l'usine qui a fait x2 ces dernières années. Là,
mais et vous êtes en phase de rachat d'autres terres agricoles ou pas?
Non, ce n'est pas le but, parce que du coup, avec 320 hectares, il y a quand même de quoi faire. Même si on respecte les rotations, on ne peut pas cultiver des pommes de terre au même endroit chaque année. Ouais. Donc, pour préserver les sols, on a une rotation de 5 ans. Mais du coup, sur 320 hectares, on est large encore.
Alors, cette marque, je me suis trompé dans la prononciation, ce n'est pas Belsia, mais donc Belsia, ça veut dire beau sans latin, puisqu'on l'a dit, vous êtes dans le département de l'Eure et Loire, qui est au cœur de cette région de la Beauce. Donc, outre le nom, c'est quoi ces caractéristiques? On a toujours évidemment l'image de la chips. Certes, c'est bon, mais certes, c'est gras et on est peut-être plus dans ces tendances-là. Qu'est-ce que vous avez voulu faire de différent avec cette gamme de chips?
Alors, en fait, Belsia, déjà, on a voulu l'appeler Belsia parce que ça rappelle, nous, notre terroir, donc, qui est la Beauce, donc en latin, mais ça nous permet aussi de franchir les frontières. Ça, c'est pas un mot... qui est trop attaché à notre zone de production. Et nous, nos chips, en fait, on cultive les pommes de terre sur la ferme. Elles sont légèrement plus épaisses, plus croustillantes. On a un système de cuisson au chaudron qui permet de garder le croustillant. Après la cuisson, on retire tout l'excès d'huile, donc elles sont moins grasses. Et volontairement, on vient moins assaisonner. Donc elles sont aussi moins salées et on n'utilise pas d'arômes, pas de conservateurs, pas d'additifs.
Pas d'assaisonnement, mais des goûts quand même très particuliers. Il y a aussi, je crois que vous avez une gamme de 8 saveurs et une 9e qui sort pour Pâques, c'est dans quelques jours.
Alors exactement, pour Pâques, on a sorti la chips au chocolat, donc en édition limitée en sous forme de boîte, qui s'est très très bien vendue. Donc c'était une chips légèrement salée, enrobée de chocolat au lait. Et là, pour cette semaine, vu que c'est une semaine de lancement, on sort la chips au roquefort.
Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, donc on est vraiment dans les territoires, une spécialisation vraiment des goûts. Le sourcing d'ailleurs de tout ce que vous utilisez, on est dans du 100% français.
Exactement, on est dans du 100% français. Notre huile de tournesol vient de France. Ça va aussi bien des matières premières, donc huile, donc les pommes de terre sur la ferme. Tous nos assaisonnements sont français. Nos cartons sont français, nos packagings sont produits en France. On a fait vraiment, depuis le début, le choix du tout français.
Les canaux de distribution, est-ce que vous restez local au sens régional, ou est-ce que maintenant vous êtes distribué bien au-delà de la Beauce ou de l'Île-de-France pour être un petit peu plus large?
Alors, bien au-delà, on est quand même assez régional. On fait à peu près 30% de notre chiffre en région centre. On fait 30% aussi en Île-de-France. On est très représenté en Île-de-France. Et après, tout le reste, c'est du national avec un petit peu d'export.
Des canaux physiques à 100%, est-ce qu'il y a un peu de e-commerce?
Alors, on fait un peu de e-commerce. On a un e-shop sur notre site internet, mais c'est très minime. Ça représente moins de 1% de notre chiffre d'affaires.
D'accord. Et le prix de vente conseillé, le prix de vente moyen, une fourchette pour un paquet
entre,
chips?
Alors, on a plusieurs gammes, parce que du coup, on va dire que les classiques au sel, elles vont être vendues à peu près 2,50 en magasin, et puis on va monter jusqu'à 3,50 avec les chips à la truffe.
Et sur l'expansion, vous m'avez parlé un tout petit peu d'export, mais ça reste évidemment, j'imagine, limité. Est-ce que vous avez envie, mais donc est-ce que ça ne va pas forcément passer par une extension? Vous m'avez dit non, on n'est pas en mode de rachat de terres agricoles, mais est-ce qu'à un moment, si vous voulez vraiment passer à l'échelle, il ne faudra pas aller vers plus de terres?
Alors les terres, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est qu'on va devoir nous développer notre petite usine, parce que du coup, à l'heure actuelle, on est saturé, on ne peut plus pousser les murs. Là, dans 15 jours, on entame notre saison et du coup, on passe en production en 24-24, ça jusqu'en octobre. Donc là, on est sur un projet d'une nouvelle construction d'usine. On vient d'avoir notre permis de construire et du coup, elle devrait être opérationnelle en juin-juillet 2025, je l'espère.
Est-ce que vous surfez un peu? On a fait un sujet il y a quelques semaines sur les bières artisanales qui marchent fort. Est-ce qu'on est sur la même tendance de redécouvrir des produits qui n'avaient pas forcément une image très healthy? Et maintenant, c'est un point important. Et est-ce que c'est vraiment sur cette même vague que vous surfez?
Ouais, on se rend compte que on a plus tendance à grappiller des parts de marché sur les industriels de la chips qu'entre chipsy et artisanal. Et effectivement, les gens, surtout depuis le Covid, veulent savoir d'où viennent les produits. Et du coup, de savoir que tout est fait à la ferme, sans additifs, sans conservateurs, ça aide à vendre.
Eh bien, on va continuer à parler du Made in France, pardon pour ce lapsus avec vous, Léa Marie, avec un tout autre domaine, c'est le textile. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale du Slip français, historiquement une des entreprises les plus engagées dans le combat du Made in France. Combat que vous menez actuellement pour proposer aux familles un uniforme fabriqué en France, et ce donc dans le cadre de cette expérimentation qui est en cours de lancement pour tester le retour de l'uniforme dans les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Parlez-nous donc de cette initiative.
Oui, merci. En fait, on a été contacté très rapidement par Thomas Heurier, le fondateur de 1083.
Mmh. Et,
c'est les jeans, effectivement. Et toujours dans un sujet d'engagement collectif, comme on l'avait fait pour les masques à l'époque, quand il a fallu se mobiliser pour fabriquer les masques pendant le Covid. Eh bien, le Slip s'est mobilisé aux côtés de 1083 en disant c'est un sujet, c'est un sujet général qui concerne tous les Français. Et comment on va pouvoir accompagner notre filière et en même temps ses familles à pouvoir accéder à un uniforme qui nous paraît d'une évidence 100% Made in France. Et donc, on a commencé à penser le produit en se disant si on fait un produit qui leur convient, avec les bonnes matières, qui soit durable au sens engagement environnemental, mais aussi durable dans le temps, avec une garantie 2 ans, avec des matières qui ne se froissent pas pour pas que les familles à sortir leur faire repasser après le lavage quotidien. Et en travaillant une quantité suffisamment industrielle d'engagement pour pouvoir faire travailler les usines, alors c'est OK, on arrive à cocher le projet. On l'a présenté à travers les visuels que vous avez vus dans toute la presse.
Et que l'on aperçoit, voilà.
On en aperçoit, voilà. Exactement, voilà, en disant, on va aller du tout petit jusqu'au très grand, en n'ayant pas trop de parti pris sur les coloris qu'on aime ou on n'aime pas, il fallait quelque chose de très utile, très efficace, où on est venu apporter une petite personnalisation sur chaque produit si les écoles le souhaitent, en mettant une bande velcro, et chaque établissement peut venir personnaliser le produit et puis un petit marquage bleu blanc rouge quand même, sans être trop
présent non plus, voilà.
Et trop présent que les élèves surtout aient envie de le porter. C'était ça notre challenge. Donc aujourd'hui, on propose en tout cas pour le moment aux régions, aux collectivités, mais on n'a pas encore capitalisé de façon officielle de commande engagée. C'est assez compliqué.
Parce que je crois que vous aviez une phase jusqu'à la mi-mars pour passer commande. Vous aviez lancé un appel aux collectivités. On est presque à la fin mars. Est-ce que cet appel a été entendu? Est-ce que vous le prolongez?
Nous, on lance un appel. On a créé un site dédié pour que ce soit simple pour elles. Mais on se rend compte que ce sujet aurait dû être centralisé, je pense, par une commande un peu plus engagée globalement, pour laisser en fait les écoles se servir sur un stock existant. Ce qu'on voit, c'est que les collectivités nous contactent, soit à travers d'appels d'offres, soit nous contactent tout simplement, qu'elles sont un peu perdues sur ce qu'on arrive à proposer et sur le délai entre ce que veulent les familles, ce qu'elles sont capables de faire. Alors on voudrait un gilet, mais nous on voudrait un sweat avec une capuche, nous on voudrait un t-shirt bleu marine. Je pense qu'il aurait, pour le premier succès, mieux privilégié un uniforme plus classique comme nous on l'a fait, massifier l'engagement pour tenir ces prix-là et proposer dès la rentrée l'uniforme. Aujourd'hui, nous, on n'a pas encore d'engagement ferme d'une seule collectivité.
Mais ça vous inquiète ou vous vous dites les choses vont peut-être, mais comme souvent en France, prendre un peu plus de temps, le temps que les esprits s'habituent, le temps que les collectivités prennent le sujet. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous vous dites ça va prendre du temps, mais on va y arriver?
Ça m'inquiète pas. C'est comme l'histoire du slip. C'est difficile. Former les gens à consommer autrement ou à voir les choses autrement, ça prend du temps. Il faut les accompagner, justement. Je pense que l'accompagnement n'est pas tout à fait OK puisqu'il n'y a pas une commande globale. Mais on va finir par proposer des produits de qualité. En face, on a aussi des produits qui ne sont pas made in France. Donc
oui,
en fait,
ça,
les collectivités, elles ont le choix entre nous et un produit en grand import.
Et est-ce qu'elles ont une obligation de faire du made in
pas
France
du tout.
Ou pas du tout. Ou au moins du made in Europe?
Non, pas du tout.
Non,
il n'y a pas d'obligation. Les élèves et les parents d'élèves ont entendu qu'à avoir un uniforme, ils doivent solliciter les établissements qui sollicitent les collectivités. Et elles se doivent de trouver une solution avec un budget sûrement réduit. Donc quand on nous contacte En général, on sait qu'on vient acheter du Made in France, donc les communes sont un peu familiarisées. Et puis le prix du trousseau à 200 euros a été pas mal diffusé, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais quand même, dans une dualité économique aujourd'hui, elles sont quand même entre nous et le reste du monde.
Et quand les premières commandes tomberont, c'est ce qu'on vous souhaite, vous serez prêt à fournir et où seront produits les différentes choses, que ce soit les jeans, les sweats, les polos, je ne sais pas ce qui me manque des choses,
les jeans et les t-shirts. Voilà, c'est ça. En France, donc tous les matériaux sont tricotés comme les produits du slip et comme pour 1083 sur le territoire français. Les matières premières sont importées, ça c'est normal. Le fil est importé. Le tricotage et le tissage est fait en France, dans différentes régions de France, chacune sa spécialité. Il y a Roanne qui tricote bien, et puis 1083 n'est pas très loin de fabriquer les jeans. Et puis après, les t-shirts, les polos, suivant les volumes, on les passera dans le nord, dans le centre, dans différentes régions. Les industriels attendent, ils nous sollicitent, ils ont entendu parler du projet, ils nous demandent quand est-ce que les commandes arrivent. Et on leur dit, on croise aussi les doigts. Je pense qu'il faut être pugnace dans ces projets-là.
Est-ce que le projet, donc on a vu, on va voir quelques images des premières expérimentations qui ont lieu dans les écoles de Béziers. On sent que des communes sont en train de freiner un peu. J'ai vu des renoncements dans la Sarthe, l'Oise, les Côtes d'Armor, les Bouches-du-Rhône, etc. Le changement de ministre aussi, peut-être que Gabriel Attal était plus proactif que sa successeur Nicole Belloubet. Est-ce que tout ça va faire qu'il y a peut-être un risque qu'on en reste qu'à l'expérimentation et pas plus que ça?
Non, enfin, je peux pas vous dire. Ce qu'on sait, c'est que c'est sûr qu'on aura des commandes. Il va falloir piloter dernière minute, mais c'est un peu l'agilité du Made in France. Si en Made in France, on sait pas piloter dernière minute, alors on n'arrivera jamais à reconstruire notre industrie. L'industrie, c'est ça. On va savoir piloter, on va implanter. Je pense que ça va fonctionner. Et d'ici 3, 4, 5 ans peut-être, on aura 50% des écoles. Mais il faut le faire progressivement. Il n'y a pas de brutalité, ni au retour Made in France, ni en tout cas à ce projet. Il faut les accompagner. C'est pas évident pour les collectivités aussi.
Pour terminer, Léa Marie, comment se porte le slip français? Comment se porte plus globalement la filière textile française? Toutes les semaines, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler plutôt d'une chaîne de distribution. Mais les producteurs aussi sont dépendants de la distribution. Comment se porte le textile français et le slip français?
Et le slip français. La filière, elle est très très endommagée. Quand une marque s'arrête, forcément, c'est aussi des industries qui finissent par être impactées. Il y a eu tous les coûts dont on a parlé l'année dernière, l'énergie, et qui continue de progresser. Et nous, au slip, notre santé se traduit par la santé de notre industrie. Donc si notre industrie va mal, forcément c'est dur pour nous. Et puis surtout, les Français consomment autrement et ont moins de moyens. Donc acheter un produit 100% Made in France, c'est dur. Et c'est dans ces moments-là que nous, on est très forts. Plus c'est dur, plus on se remobilise. Et on lance un grand projet dans 10 jours, le 3 avril, qui s'appelle Révolution, où justement, prouver que par le volume, par l'industrie et par le changement de méthode, on arrive à avoir des produits impactants, moins chers et plus en phase avec les attentes des Français aujourd'hui. Donc,
et ça veut dire des prix à la baisse.
Exactement.
C'est un peu tôt ou pas? Ou est-ce qu'on peut dire quelles sont les annonces qui vont être faites?
En tout cas, il va quand même peut-être y avoir effectivement un produit qui va sortir avec un prix divisé par deux.
Parce que c'est une annonce, merci de la faire ici. Vous aviez, il y a quelques mois, en 2023, fait, je crois, 50 000 sous-vêtements vendus en 20 jours à 20 euros. On est un peu dans la même philosophie.
Exactement. Il fallait qu'on comprenne un peu ce qu'allait se passer. Il fallait qu'on prenne ce risque, nous, l'année dernière, de lancer une précommande, la plus grande précommande de 50 000 pièces vendues en 20 jours. Et on a tout industrialisé, toute la chaîne, se rassurant et sur les attentes de nos clients et des Français qui ont vraiment joué le jeu à nos côtés et de nos industriels qui ont tenu la cadence. On s'est dit, on doit le faire à grande échelle et de façon pérenne. Et notre job au slip, c'est d'être dans les tiroirs de tous les hommes qui sont à nos côtés. Et c'est ça le rôle du slip français, c'est d'être partout, tout le temps, pour qu'on puisse reconstruire une industrie. Donc, on le déploie à grande échelle le 3 avril.
Eh bien voilà, c'est une annonce donc des produits du slip français moins chers à partir du 3 avril. Ça va être annoncé officiellement. Merci Léa Marie. On a échangé un peu en plateau, je crois. Bonjour Sébastien Gillet.
Bonjour.
Que vous êtes, comme moi d'ailleurs, un utilisateur,
Exactement.
Consommateur du slip français.
Et fier, quand je vois l'histoire en plus de Léa, encore plus fier.
Voilà, vous êtes donc notre troisième invité pour parler de l'événement consacré à l'industrie la semaine prochaine. C'est la sixième édition de de Global Industries. Ce sera à Villepinte. On va parler du dispositif et de notre dispositif aussi dans quelques instants. Sixième édition. C'est en alternance une année sur deux à Lyon. Et là, cette fois-ci, donc, c'est à Villepinte. C'est l'âge de maturité qui est en train de se mettre en place pour cette édition 2024.
Bien sûr, ouais, on revient en effet à Paris plus fort. Vous savez que notre métier a été fragilisé. Les créations de Global Industries, c'est 2018. Pas d'édition 2020. 2022, on est dans la queue du Covid, donc on n'est pas tout à fait sur la même représentativité, ni exposants, ni visiteurs. Donc c'est pas du tout la même édition. Donc là, on revient fort avec de la politique, avec les pouvoirs publics, on revient fort avec la représentativité, 2300 exposants. Sur nos premiers indicateurs de pré-enregistrés, hein, c'est notre indicateur, nous, sur notre métier de salon, on est sur une base de 38 000, 40 000 visiteurs. Donc on revient à ce qu'on était avant crise. Donc j'allais dire, tous les indicateurs sont ouverts pour que cette édition soit la plus belle et qui représente le mieux les enjeux de l'industrie, décarbonation, attractivité des métiers, relocalisation. Ce sera des sujets qui seront bien sûr évoqués dans les allées du salon.
Pour terminer sur les chiffres clés, combien de surfaces d'exposition, combien de machines en démonstration? Je crois qu'on est aussi sur un chiffre record.
Oui, on accompagne le maximum d'entreprises parce que c'est ça qui va permettre aux jeunes en tout cas de se rendre compte c'est quoi l'industrie aujourd'hui. Elle est tout autour de nous, donc c'est plus de 3000 machines en fonctionnement dans cette édition. On se parle de 100 000 mètres carrés. Et en tout cas, voilà, une nouvelle fois, on est très 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 content de revenir à Paris. C'est un autre tissu d'industriel qu'on n'a pas forcément à Lyon. Mais je crois que le Parisien, ou en tout cas le nord de la Loire, aujourd'hui qui visite très très peu Industrie Lyon, Global Industrie Lyon, je crois que une nouvelle fois, d'après les préenregistrés, seront bien présents dans cette édition qui ouvre lundi 25 mars.
Vous parliez des politiques, alors sans faire de comparaison, parce que les volumes ne sont pas les mêmes. 600 000 personnes au salon de l'agriculture, vous presque 40 000. Est-ce que c'est en train de devenir le salon de l'agriculture de l'industrie globale industrie?
En tout cas, les industriels avaient un rêve il y a 14 ans, c'est quand je récupère l'industrie, c'est qu'on ne parlait pas assez de l'industrie, les politiques n'étaient pas présents sur le salon et pas les jeunes. Et aujourd'hui, il faut être réaliste et regarder un petit peu dans ce qu'on va avoir. On va avoir 5000 jeunes qui vont venir sur le salon. On a 4 ministres qui ont prévu entre lundi et mardi, notamment le ministre de l'Industrie, enfin en tout cas Roland Lescure. C'est un peu son salon, son festival de Cannes, comme il l'a dit. On va avoir des grands médias. Et une nouvelle fois, merci à vous, Jérôme, encore d'être présent et bien relayer aussi ces métiers de l'industrie. Donc, je veux dire, tout ce qui était un rêve il y a quelques années devient réalité aujourd'hui. Donc, oui, on peut dire avec un peu de prétention, on sera aujourd'hui le pendant de l'agriculture pour l'industrie. Et il fallait que la France ait une vitrine, comme elle l'a aujourd'hui, pour les enjeux de l'industrie qu'on a évoqués. C'est pas le tout d'avoir des belles paroles, des belles phrases. Il faut aujourd'hui maintenant les actes. Et je crois que les actes aujourd'hui, à travers les pouvoirs publics qui sont mis en place, à travers les grands patrons de l'industrie qui sont présents, seront mis en place pour une nouvelle fois qu'on ait une industrie qui soit belle. Et elle est belle, notre industrie. Il y a un vrai savoir-faire en France. Arrêtons un petit peu de râler toujours outre-Rhin de ce qui se passe. On a une industrie qui est multifilière. On parle d'agro, on parle de nucléaire, on parle de l'aéronautique. Si je fais comparaison avec nos confrères allemands, on parle que l'automobile. Nous, on a l'ensemble de ces filières-là et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes...
Diverses, ouais.
Voilà, et c'est important parce que c'est une vraie valeur ajoutée et un vrai plus qu'on a aujourd'hui.
Le contexte, quand on s'était vu à Lyon il y a un an, on sortait de l'année 2022 avec un solde très positif à la fois de création de sites et création d'emplois. Le baromètre 2023 montre que certes, ça reste dans le positif, mais beaucoup moins. Oui. Est-ce que cette tendance de manière générale que l'on sent de ralentissement de l'économie qui a donc un impact sur l'industrie et ce phénomène de réindustrialisation, est-ce qu'il est inquiétant, en tout cas dans les exposants, les acteurs que vous côtoyez, vous, en tant qu'organisateur?
Le sol est positif, donc ça c'est toujours important. Et quand on parle de relocaliser aujourd'hui, on se parle quand même toujours de 150 entreprises qui relocalisent. On parle d'énormément d'entreprises qui aussi réinvestissent. Moderniser l'outil industriel, ça coûte de l'argent. Vous en avez parlé, vous, en introduction. C'est d'ailleurs clé. Et quand vous réinvestissez indirectement, aussi, vous pouvez reformer, vous pouvez réembaucher. Donc aujourd'hui, on est de 200 000 postes à pourvoir dans l'industrie, hein, c'est quand même pas neutre. Ça fait un certain nombre d'années qu'on n'a pas eu 200 000 postes à pourvoir. Alors certes, il y a les métiers qui sont encore en tension, qui sont peut-être pas encore aujourd'hui, sur lesquels on communique pas encore assez bien, mais les métiers d'aujourd'hui, les métiers de l'industrie de demain sont beaucoup plus sexy, parlent beaucoup plus aux jeunes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, hein, aujourd'hui, qui fait vraiment son entrée globalement dans toutes les industries avec un grand I. Elle sera bien sûr présentée à travers Global Industries, mais en tout cas, ces métiers-là leur parlent beaucoup plus. Donc si on a 5 000 jeunes, c'est pas juste parce qu'on va faire un focus sur le sport, c'est juste parce qu'il y a une vraie attente. On paye mieux dans l'industrie que dans d'autres filières, on embauche plus en CDI que dans d'autres filières. Donc aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour qu'une nouvelle fois, refaire venir ces jeunes dans l'industrie. Donc oui, on peut dire un petit tassement sur le nombre d'embauches, ou en tout cas le nombre de réinvestissements. Il est toujours positif. J'essaie toujours de regarder le verre à moitié vide. ou le verre à moitié plein.
C'est ce qu'on fait dans concerne. Le plein, c'est ce qu'on fait dans
et
cette émission
ce que vous faites, vous,
chaque semaine.
Et merci. Et c'est vrai que loin derrière les années qu'on a eues, où on les délocalisait, où l'industrie était mise de côté, si j'ose dire, on n'est plus du tout dans cet aspect-là. Et je crois, sans faire une nouvelle fois de politique, que toutes les prises de position, elles sont dans ce sens-là.
Vous parliez de l'innovation. Chaque année, il y a des awards qui sont remis. Ça reste le cas.
Clé. C'est ce qui porte aussi un salon. Depuis que la création de Global Industries, on se parle de 2000 innovations quand même. Hein. C'est énorme. Ça veut dire qu'on est sur une industrie avec un grand I. Je dis, on n'est pas sur certaines filières. On innove de partout, que ce soit une TPE, une PME ou un grand groupe. On innove bien sûr beaucoup dans l'IA, on en a parlé. Beaucoup dans l'accompagnement de l'homme et des femmes sur l'outil productif. Donc aujourd'hui, on a encore des innovations qui seront à la hauteur, une nouvelle fois, des enjeux d'industrie. On parle de décarbonation, on parle de tous ces sujets-là, de l'économie d'énergie. Je peux vous dire une chose, qu'on a la chance d'avoir une industrie où les gens sont agiles, n'ont pas attendu la crise de l'énergie pour avoir anticipé comment se réorganiser dans les entreprises. Mais une nouvelle fois, ça sera encore démontré à travers les nouveautés qu'on va avoir dans cette édition.
Quelques temps forts, donc ils auront lieu sur la grande scène, qui est une des innovations de cette édition 2024, et aussi une chaîne éphémère.
Une chaîne éphémère, bien sûr, sur laquelle, bien sûr, on a la chance que vous nous accompagniez et pour mettre un maximum de visibilité. Mais bien sûr, Global Industries aujourd'hui n'a pas encore attiré les grands patrons qui sont souvent un peu les locomotives de notre industrie. Et on avait à cœur, en tout cas, de pouvoir aussi créer cette grande scène. On remercie Nicolas Dufour, qui est président du salon, donc bien sûr, directeur général de la BPI, qui nous a accompagnés à travers son réseau, à travers aussi, bien sûr, toutes ses connaissances et toute sa légitimité, si j'ose dire, pour qu'on ait une grande scène avec l'ensemble des grands patrons. Donc, on a plus de 500 speakers qui vont être sur 4 jours. Donc, tous les sujets, mais les grands patrons, ils ont un rôle, c'est une nouvelle fois d'être locomotive et d'accompagner les TPE, PME. Et ils auront ce rôle-là, en tout cas, dans leur mission sur les 4 jours sur Global Industries.
Eh bien, rendez-vous donc dès ce lundi. Merci beaucoup, Sébastien Gillet, directeur de Global Industries. La présence de BFM Business, ce sera en matinale Good Morning Business de 8h à 9h avec Christophe Jacubizine. Il y aura un autre rendez-vous en direct. J'aurai le plaisir d'animer de 13h à 14h, donc toujours en direct de Villepinte. Et puis des émissions enregistrées, notamment, vous parliez de sport, un sport business avec Sandra Gandouin et une émission Tech & Co Business avec Frédéric Simotel. Bref, un très joli programme. Rendez-vous donc dès ce lundi 25 mars. La France a tout pour réussir est diffusée en télé, en radio et bien sûr sur le site et l'appli de BFM Business. Très bonne journée, très bon week-end et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.